Service public.
Service public.
Service public. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice et loi, sur des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réunis sur une même enseigne. Service public. C'est tout simplement notre métier.
Bonjour à vous, Ezoul, sbah el khair. Comment vous allez? Il est tout juste 10h04, chères auditrices et auditeurs. Merci à vous, hein, auditeurs et auditeurs de la chaîne 3, de nous écouter, de nous rester fidèles, de continuer à être fidèles à cette chaîne, on va dire la chaîne 3, cette chaîne 3, l'Aziza. Alors, il y a eu de la pluie ce matin. J'espère que ça vous a fait du bien, ça rafraîchit les idées, en tout cas pour nous. On est toujours heureuse de vous accompagner de 10h à 11h sur les ondes d'Alger chaîne 3. Alors ce mardi 27 septembre 2025, dans Service public, il sera question de la rentrée universitaire 2025-2026 en compagnie de notre invité qui va arriver dans quelques instants, qui nous fait le plaisir de venir partager avec nous cette petite heure pour nous raconter comment ça se passe du côté de Babzou, une des plus grandes universités, en tout cas qui a attiré beaucoup d'étudiants et d'étudiantes. Hein. C'est un endroit où vous pouvez quand même vivre votre vie d'étudiant et d'étudiante. On en saura un peu plus sur comment ce vivier de compétences est en train de s'organiser. La première université du pays de sciences et technologies de Babzouar. Pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Jamaldine Aktrèche. Il sera là dans quelques instants. Juste avant, on écoute une chanson, le temps de s'installer, de saluer l'équipe qui est avec nous, Hakim Ben Moussa à la réalisation, et puis vos appels au 021 48 15 15 nous feront plaisir. N'hésitez pas, s'il y a des questions, on est là pour répondre avec nos invités. C'est un peu le principe de Service public.
لا ترحلي عن منزلي يا
آنسة تفضلي تفضلي كوني بقربي جالسة غني لقلبي وارقصي إن حياتي بائسة إن نهاري حالك إن نجومي عابسة تفضلي يا آنسة يم العيون الناعسة أنا وحيد متعب ولا رفيقا آنسة ولا رفيقا آنسة
اعتبريني فارسا فأنت عندي الفارسة
تفضلي يا آنسة يا من عيون النائسة أنا وحيد متعب
متعب
ولا رفيقا آنسة
ولا
رفيقا آنسة تفضلي يا آنسة يا من عيون النائسة أنا وحيد متعب ولا رفيقا آنسة ولا رفيقا آنسة.
Voilà, on vous a un peu bercé avec cette belle voix pour démarrer notre magazine 10h 11 minutes. Service public vous accompagne jusqu'à 11h. Nous sommes en compagnie de notre invité. Bonjour, professeur Jamaldine Aktrash. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes recteur de l'Université des sciences et des technologies Houari Boumediene, la plus grande université. Comment s'est passée votre rentrée hier?
Bonjour et puis merci pour l'invitation.
Merci à vous d'être là et de prendre de votre temps. Nous avions aussi convié d'autres recteurs et d'autres directeurs d'école. Pas pu venir, donc j'espère que la prochaine fois, ils seront parmi nous.
Il n'y a pas de problème. Je suis toujours, disons, au service du service public.
Oui, tout à fait. Bah, c'est le principe. Merci.
Voilà, enfin, bon, hier...
C'est parti pour 2 millions d'étudiants, hein, on va
oui,
dire, cette année.
Pratiquement, oui, pratiquement. Donc, bon, il y a un nombre... Bon, de toutes les façons, le nombre est en train de croître d'année en année. Mmh. Et donc, notre ministère de l'Enseignement supérieur a toujours fait l'effort donc, de mettre, disons, à disposition le nombre de places pédagogiques nécessaires pour accueillir donc ces étudiants. Donc il y a eu dans certains établissements il y a eu donc la réception de nouvelles structures, il y a eu donc recrutement de nouveaux enseignants et il va y avoir donc il y a eu l'annonce récemment de plus de 4000 nouveaux postes, donc nouveaux enseignants.
D'accord.
Qui seront recrutés pour donc renforcer l'encadrement pédagogique, ce qui est une bonne chose et une bonne chose pour donc la qualité de l'encadrement et aussi une bonne chose pour nos doctorants nos docteurs je dirais qui maintenant donc arrivent à trouver un poste de travail. La rentrée, moi j'étais donc présent
avec
monsieur le ministre,
oui.
Donc
c'était
au niveau de Sint, ouais. Donc où le lancement officiel de l'année universitaire a été donc effectué. Et au niveau donc de mon université, bon, monsieur le vice-recteur de la scolarité, le docteur Blade, a pris en charge donc l'ouverture donc au niveau de l'USTHB et bon ce que j'ai constaté d'ailleurs on m'a envoyé des photos alors que j'étais à Thyssen-Sylt, l'auditorium qui prend 2000 personnes étaient archi-combles. Il y avait même plus.
D'accord.
Plus de, donc, il y avait vraiment un engouement, des, particulièrement les nouveaux étudiants qui étaient donc curieux de découvrir leur université.
Leur université, voilà.
Et de démarrer donc leur vie universitaire.
Donc, on n'a pas une idée encore, professeur Altrèche, combien vous avez d'étudiants pour cette nouvelle année 2025-2026.
Enfin, beaucoup d'inscrits. Bon, c'est
reste-t-elle toujours
12 000, disons, on a déjà 12 600 qui sont inscrits. Et puis bon, ça peut varier, donc, comme nouveau bachelier. C'est quand même une charge énorme, mais c'est normal puisque en sciences et technologies, l'USTHB prend en charge toute la wilaya d'Alger. Et puis aussi d'autres wilayas pour certaines...
Mais est-ce que Babzouad reste toujours cette première université du pays en sciences et technologies, professeur Akraf?
Je dirais en principe, parce que, bon, de toutes les façons, je sais que notre produit est très recherché, c'est surtout ça. Moi, j'ai toujours parlé, bon, quand on parle qualité, l'un des paramètres importants, quand on parle même assurance qualité, c'est... justement le output, si le output est recherché, s'il est apprécié par les employeurs et s'il y a création donc même d'entreprises, maintenant c'est aussi un autre cheval de bataille, on peut dire que la qualité est maintenue.
Et on dit toujours, où que vous soyez, si vous dites que vous êtes sorti avec un diplôme de l'université de Babzouar, l'emploi est assuré. Est-ce que c'est vrai, professeur?
Non, c'est ce qu'on me dit. C'est ce que beaucoup de gens me disent. C'est-à-dire, c'est des retours que j'ai à travers un certain nombre de personnes.
Le diplôme de Babzouar, il est dans le monde.
Il est dans le monde, effectivement. Même les équivalences dans beaucoup de pays s'obtiennent relativement facilement. C'est un diplôme quand même qui est reconnu. Et puis, d'un autre côté, c'est vrai que beaucoup se plaignent de la difficulté. Ils disent, Babzouar, c'est serré. C'est pour avoir son 10 à Babzouar, c'est pas évident. C'est vrai que ça peut être, on peut considérer, d'ailleurs je le dis toujours, Babzouar, c'est une grande université, plus de 130 hectares.
130
en fin de compte, le dernier.
Vous avez encore pris
c'est 130.
Une université qui a presque un demi-siècle.
Elle a dépassé le demi-siècle. Maintenant, elle
74,
elle est à 51 ans. Et puis, il y a 50 000 étudiants quand même à l'intérieur. Il y a entre enseignants qui sont à 2300. Et travailleurs 2200, c'est-à-dire on est à 4500 points de vue personnel. On peut considérer des fois pour certains que c'est un milieu hostile, un milieu dur. Alors je dis, quand un étudiant arrive à sortir de ce milieu avec toutes les difficultés, c'est-à-dire un milieu qui est quand même assez dur.
Moi je trouve pas, pourquoi on dirait, pourquoi vous dites
hostile, d'un point de vue...
D'abord l'architecture elle est magnifique, l'espace...
De l'architecture, mais pour un jeune étudiant, moi je le dis toujours, le problème... il peut y avoir des fois des chocs psychologiques. Quand vous avez un jeune qui est dans un lycée, un adolescent qui sort du lycée, au niveau du lycée, il est
petit
groupe.
L'enseignant
l'appelle par son prénom, il connaît ses parents. Et puis il débarque dans un milieu où il se retrouve dans un amphi de 200 personnes, l'enseignant vient, fait son cours, sort, il ne le regarde même pas. il se retrouve avec un nombre
gigantesque,
au lycée. Il y a peut-être 500, 600 camarades. Là-bas, il se retrouve avec... il est dans une ville perdue. Il y a des jeunes, des fois, qui ont un choc et qui, des fois, ne réussissent pas ou ont des fois un passage à vide qu'il faut prendre en charge. Mais là, c'est vrai qu'on est déficient parce que la prise en charge psychologique, ça serait bien d'avoir des cellules d'écoute.
Bien sûr, au niveau de l'université.
Au niveau de l'université,
bien sûr, et puis l'espace.
Mais là, on n'est pas équipé.
Mais avec quelle moyenne on peut maintenant accéder et à quelle filière au niveau de l'université de Babzouar, monsieur le recteur?
Ça varie. Alors, par exemple, si vous prenez l'informatique qui est très, très demandée cette année, pour une licence en informatique, c'est 15,90 minimum.
Ouais.
Pour l'ingénieurat, c'est 16,75. C'est pratiquement des moyennes d'école. Mmh. Parce que ce qu'il faut noter, dans une université, vous avez un minima d'école.
Mmh.
Donc ça veut dire qu'il y a une forte demande et nous recevons donc de très bons bacs. Parce que quand vous avez un minima en ingénieur informatique à 16,75, ça veut dire que les promotions donc d'ingénieur en informatique, c'est des bacheliers qui ont des 17, 18. Mmh.
Est-ce que ce sont vos barèmes, monsieur le recteur?
Non, c'est le numerus clausus, justement. C'est là où on voit l'offre et la demande. Nous, on ouvre un certain nombre de postes. Mmh. Vous avez donc la demande et la qualité de la demande. Donc ça implique qu'il y a une qualité de demande. Et donc ça élève les minima.
Mmh.
Et nous avons aussi, cette année par exemple, on a ouvert un nouveau cursus en biologie. C'est un master intégré.
Biologie en master
intégré. Voilà, master intégré qui s'appelle donc master en sciences biologiques et santé.
Oui. Ça, c'est intéressant.
Où le minima est à 15,90.
Ok, 15,90.
Voilà,
hein.
Donc
presque 16. Dites-moi, monsieur le recteur, est-ce qu'il y a eu donc des nouvelles réformes pour l'université pour cette année 2025-2026? Donc, l'apprentissage, on va dire, de l'enseignement en anglais, la bourse étudiante, les places pédagogiques, comment vous avez préparé toute cette rentrée?
Bon, on parlera. C'est pas vraiment c'est pas des réformes, mais c'est quand même. On adapte donc tous les nouveaux textes, la nouvelle vision du ministère de l'enseignement supérieur. Nous l'adoptons au niveau de l'USTHB. Nous essayons donc de l'optimiser, de la maximiser. Par exemple, cette année, normalement, nous aurons l'enseignement en anglais pour toutes les premières années. Donc après quand même 3 ans d'efforts où il y a eu des formations d'enseignants, il y a eu donc on a aussi on utilise aussi les nouvelles recrues qui sont peut-être mieux formées en anglais, etc. Donc là, l'emploi du temps est fait par la scolarité pour assurer à 100% l'enseignement en langue anglaise pour la première année.
Mmh.
Ça c'est une première.
Okay.
Voilà. Maintenant pour les autres. Si on dit réforme, c'est pas en fait une réforme, c'est la nouvelle vision de l'enseignement supérieur, c'est que maintenant l'université, elle ne s'occupe pas uniquement d'enseignement et de recherche, mais elle participe à la vie économique.
Tout à fait.
Donc sur ce plan-là, nous avons
Vous étiez déjà en avance, vous avez lancé des masters professionnels, je dirais.
Oui, d'abord les masters professionnels d'une part, et puis aussi à l'aspect entrepreneuriat, que nous avons bien développé, puisque, comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes interventions, il y avait deux piliers de l'enseignement supérieur, c'est l'enseignement et la recherche, et maintenant, nous sommes en train de construire un troisième pilier qui est l'entrepreneuriat et l'innovation. Donc pour ça, l'USTHB, je dirais qu'elle est bien équipée puisque nous avons dédié un bâtiment qui s'appelle le Startups Hall, où nous avons toutes les activités entrepreneuriales. À l'intérieur, donc tout l'écosystème y est. Nous avons donc un incubateur, un centre de développement d'entrepreneuriat, un centre d'appui à la technologie et l'innovation. Nous avons un bureau donc liaison université-entreprise et à l'intérieur il y a donc une salle de conférence où donc il y a des formations, on invite des industriels, on invite des économistes,
et c'est déjà bien, donc il y a la passerelle entre les étudiants et le monde du travail.
Voilà,
c'est ce que devrait avoir tout le rôle de toutes les universités.
Bien sûr.
Si vous permettez, on écoute tout de suite un compte rendu de Hajar Mesoudi qui s'est rendu et qui a fait la rentrée universitaire à Tissimsilk pour revenir sur ces nouveautés de l'année 2025-2026.
L'enseignement supérieur présenté comme un levier pour l'économie nationale. Kamel Bedari, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
L'Algérie vit aujourd'hui une dynamique économique et sociale particulièrement positive qui reflète les efforts soutenus dans notre pays en matière de développement et de réformes. Cela se manifeste par des augmentations régulières des salaires, rendues possibles grâce à une croissance économique solide depuis 2020, avec un taux qui a atteint 4,8% en 2024. Le PIB par habitant est considéré comme le plus élevé du Maghreb, avec une valeur d'environ 6 130 $ en 2024. L'Algérie ambitionne d'atteindre un PIB supérieur à 400 milliards de dollars dollars à l'horizon de 2027.
Un discours qui se traduit déjà par des partenariats. Une convention a été signée autour de la recherche sur les plantes médicinales. Pour ce chercheur, c'est la preuve que la science doit servir directement la santé et l'économie.
Il y a plus de 140 laboratoires qui travaillent sur les plantes médicinales. Mais on est la première unité spécialisée. On ouvre la porte aux autres laboratoires pour avoir accès à des technologies beaucoup plus pointues.
L'innovation passe aussi par les étudiants.
On a développé une application pour le stationnement. Elle indique en temps réel les places libres grâce à des caméras. C'est pratique pour les usagers et rentable pour les propriétaires de parking qui achètent le système. C'est ce genre de projet qui nous permet d'appliquer nos études en mathématiques et informatique à des solutions utiles au quotidien.
Une rentrée marquée par un message fort. L'université n'est plus seulement un lieu d'études. Elle doit devenir un acteur central de la vie économique et sociale du pays.
10h24 minutes, service public jusqu'à 11h. Vous réagissez par rapport à, donc, au reportage, hein, de Hajar Mesrouedi. Donc, l'université, l'université Bebzoual, vous-même, hein, vous avez déjà 11 brevets d'invention obtenus par des étudiants, hein, l'année passée, c'était?
Oui, c'était durant l'année, pour l'année 2025. Donc on avait fait deux, il y a eu deux événements où on a, disons, récompensé, remercié, enfin, encouragé un peu ces porteurs de brevets. Et en dehors de ça, bon, nous avons quand même un certain nombre de labels que nous avons obtenus, puisque de labels innovants, de projets, donc déposés au niveau du ministère de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises. Il y a plus de 30 labels qui ont été donc obtenus.
30 labels au niveau de
Voilà, en start-up, donc, qui ont été créés, qui sont en voie de création, nous sommes à peu près, disons, une quinzaine de start-up, donc avec qui. Et nous avons d'ailleurs 5 start-up que nous hébergeons parce que, justement, quand j'ai dit, bon, l'écosystème que nous avons donc mis en place permet toujours d'aider et d'accompagner le porteur de projet, le porteur d'idées. C'est ça le rôle.
Justement, mais est-ce que c'est une initiative des étudiants eux-mêmes qui ont envie d'être dans cette option d'invention, de créer des labels, de créer des start-up, ou est-ce qu'il y a un accompagnement des professeurs ou des encadreurs?
Bon, il y a eu
jonction.
Il y a eu deux arrêtés qui ont un peu boosté l'arrêté de 1275 qui a été modifié donc 008. Qui donc disait donc un diplôme, une start-up, un diplôme, un brevet, c'est-à-dire qu'on essayait d'encourager les étudiants à faire de leur mémoire de fin d'études un projet innovant et donc de créer leur propre start-up et de créer donc de créer des emplois. Bon, ça c'est disons, je dirais que c'est le déclencheur de cette dynamique. Maintenant, moi, je...
Elle est réelle, cette dynamique, professeur Akrash? Est-ce que l'étudiant lui-même a envie?
Oui, bien sûr, c'est l'étudiant qui a envie. Après, il est accompagné par son enseignant. Donc, quand il veut faire son projet start-up, s'il a une idée, il veut développer son projet, il le fait. Maintenant, il y a donc
je ne viens pas dans l'idée à Bebzoual, à l'université, de faire mon ingénieurat ou mon master. Je viens aussi avec l'idée de créer mon start-up, un label et tout. On est dans
Bien sûr.
Une génération.
Bien sûr. Et là, tout dépend de l'étudiant. Hein.
Oui.
Vous avez des étudiants qui ont un esprit entrepreneurial, d'autres qui veulent se limiter à chercher un emploi.
Oui. Bon, et donc, alors, quel est le pourcentage, selon vous, qui est avec
pour l'instant...
Est-ce qu'on a plus de ceux qui veulent entreprendre ou ceux qui veulent faire leur cursus universitaire, tout simplement?
Bon, on peut pas avoir une véritable estimation parce que bon, c'est vrai que peut-être qu'il y a beaucoup d'étudiants qui veulent faire leur projet mais qui peut-être se heurtent à des difficultés, donc qui n'arrivent pas à proposer ce type de projet. Mais en même temps moi, je, à chaque fois, j'encourage, c'est-à-dire en dehors de ces projet qui donc arrive à partir d'une soutenance de master. J'encourage tout étudiant quand il a une idée, ben il vient il se présente au niveau du Startups Hall et il est pris en charge.
D'accord.
C'est-à-dire, ce qui est important, c'est que l'université a mis en place et donc c'est le ministère de l'enseignement supérieur, qui a créé partout donc des CDE, des incubateurs, etc. Donc il a mis en place un écosystème qui permet donc d'accueillir, d'accompagner, d'aider l'étudiant qui veut, et même l'enseignant hein, qui veut réaliser son projet.
Parce qu'il y a des enseignants aussi. Oui, voilà,
et nous avons d'ailleurs deux cas d'enseignants à l'USTHB qui ont créé leur start-up.
D'accord. Ils ont mis du temps, mais ils l'ont fait. Voilà,
oui, parce c'est dans leur labo de recherche.
Donc on va dire, pour cette année, il y a 30 labels, vous m'avez dit, sortis de l'université de Babzouar, et vous avez parlé de 15 start-up. Mm-hmm. Et donc ils ont l'encadrement, ils ont l'enseignement, ils ont pour continuer. Oui. Alors est-ce qu'on peut parler du mode d'enseignement? Est-ce que ça s'est modernisé un peu à Babzoua? Dites-nous l'état des lieux, professeur à crèche.
Bon, là c'est une
vous
question.
Vous souriez parce que vous n'êtes pas tout à fait.
Non, c'est une question un peu. Non, la modernisation, c'est-à-dire bon, il y a une partie qui se développe et qui a toujours été développé au niveau de
oui,
l'ESTHB.
Oui, mais d'abord, faites-nous l'état des lieux. Est-ce que donc on a les cours...
Non, les cours à distance, il n'y a aucun problème. C'est... Ça okay. se fait. Maintenant, la majorité des enseignants sont bien formés dessus. Mmh. Mmh. Donc, il n'y a aucun problème. Maintenant, si on analyse profondément donc, les problèmes donc, pédagogiques qui sont posés, bon, il y a un problème. Moi, j'avais lancé une discussion au niveau de notre conseil de direction, etc. Peut-être pas, enfin, on verra. Il y a une constatation actuellement, c'est qu'il y a un absentéisme important au niveau des cours magistraux. Bon.
Est-ce que ça concerne que l'université algérienne ou ailleurs dans le monde? Est-ce que vous avez écho quand vous êtes...
Je pense que dans beaucoup de pays, ça se passe. Mmh. Bon, ça s'explique.
Donc les étudiants ont de moins en moins envie de venir assister à un cours...
Voilà. Ouais. Alors ça, moi, je l'explique. Bon, l'explication, si l'on veut, logique, cartésienne, c'est que nous, quand on était étudiants... C'est-à-dire, si on prend les étudiants des années 70, 80, jusqu'à 90, les sources d'information, c'était l'enseignant. C'était la seule source.
Et la bibliothèque.
Et la bibliothèque qui était d'ailleurs à l'époque insuffisante. On se battait pour avoir un livre.
Pour récent, avec des actualités.
Pour l'avoir pour 15 jours. Mmh. Bon.
Très juste.
Donc, il y avait l'enseignant. Donc, l'étudiant était obligé d'être au cours donc magistral, il était obligé d'assister, il était obligé donc pour avoir donc son cours et sa formation donc par rapport à une matière. Maintenant nous retrouvons quand même face à un monde où vous avez
vous êtes assaillis de partout,
des milliers de sources d'informations, si ce n'est des centaines de milliers.
Très juste.
Donc en fait, quand vous avez un cours, un chapitre X, vous tapez sur votre ordinateur, vous avez peut-être 1000 cours qui s'offrent à vous et vous
tout
choisissez. Et vous avez des cours, franchement, qui sont faits d'une manière vraiment attractive, intéressante, avec des vidéos, des films, etc. Donc, ce qui fait que il y a peut-être certains collègues, garde la même méthode.
Voilà, j'allais vous dire, professeur Akrèche, on n'attire peut-être pas les étudiants dans la manière d'émettre un cours magistral
qui est donc débité, et en plus c'est des informations que l'étudiant peut avoir fait que on s'éloigne un peu de ça. Donc là, il y a...
Mais les TD, est-ce qu'on vient au TD plus?
Les TD, oui. Les TD, il n'y a pas de problème.
C'est
parce que les travaux dirigés, c'est pratique.
Voilà.
C'est des exercices, des applications. Aussi, Et puis, c'est des applications à ce qu'on a appris en cours. Mm. Parce qu'en fait, quel que soit le nombre de sources que vous avez pour comprendre un chapitre, pour avoir les éléments d'un chapitre. Mm. Après, pour les différentes applications, il y a un enseignant peut vous proposer pas mal d'applications de ce que vous avez appris. C'est là où vous savez si vous avez bien compris votre chapitre ou
pas.
Non.
Bien sûr.
Et là, bon, à travers le monde, par exemple, en ce moment, il y a une technique qui est développée. D'ailleurs, j'en parle, on en parle. On a fait quelques petits tests pour certains masters. Bon, c'est ce qu'on appelle la classe inversée. Mm-hmm. Bon, la classe inversée, c'est une technique qui se développe actuellement en Chine, en Finlande, etc. Donc, la classe inversée, c'est on laisse la liberté donc à l'étudiant d'aller chercher son cours, c'est-à-dire que l'enseignant, il dit voilà, j'ai tel chapitre, on va faire tel chapitre. Donc, voilà les quelques liens et le reste, débrouillez-vous. Et on se voit dans 15 jours. Mm-hmm. Et c'est un débat.
Okay.
C'est un débat, c'est-à-dire que l'étudiant, après avoir vu son cours, il vient, il pose des questions à l'enseignant, là où il n'a pas compris. Et l'enseignant doit être apte, bien sûr, à répondre à ces...
Et quel retour a eu cette méthode de classe inversée, professeur Akrash?
Bon, c'est encore timide. Hein, c'est encore timide. Bon, il y a eu dans un ou deux masters, on a fait le test. Bon, ça marche, mais c'est encore
timide. Ça veut dire peut-être on irait dans votre analyse, dans cette réflexion, donc peut-être changer la méthode d'enseignement.
Probablement.
Dans vos réunions, vous parlez de quoi avec,
Oui, on essaie d'encourager, mais il faut quand même une réforme. Une réforme beaucoup plus profonde. Mais je pense que si on fait un diagnostic un peu de ce qui se passe, ces absences en cours magistral, il faut voir pourquoi. Il faut voir pourquoi, parce que c'est quand même quelque chose qui est là, qu'on constate. Bon, il y a certains enseignants...
Est-ce que c'est toutes les filières, professeur Akrash?
Pratiquement, je pense que c'est toutes les filières. Moi, à chaque fois, on me dit, voilà, le cours... D'autant plus que le cours n'est pas forcément obligatoire. Il y a donc un absentéisme qui est constaté par beaucoup d'enseignants. Même les enseignants, d'ailleurs, j'ai un enseignant qui est collègue avec moi, qui est dans mon staff. C'était un enseignant qui a toujours été, on parle de lui, son amphi était toujours archi plein. Le cours de physique se faisait toujours chez lui, il avait du monde. Je lui ai posé la question, il m'a dit effectivement, j'ai une diminution du nombre de...
Ça veut dire qu'il faut quand même parler des réformes et réfléchir peut-être autrement à enseigner au niveau des universités pour attirer plus les étudiants.
Oui, peut-être.
Et la question prochaine, hein, il est 10h35, c'est service public jusqu'à 11h. Est-ce qu'on continue à aller vers le master et l'ingénierat au niveau de Bebzouar, professeur Akrash?
Oui, enfin là, puisque l'ingénierat est revenu depuis 2022, donc on a relancé l'ingénierat.
Donc l'ingénierat, rappelons aux auditeurs que c'est 5 ans d'études.
5 ans d'études, oui, directement. Et le master, bon, qui sont en fait, pour moi, bon, ils sont équivalents.
C'est moins, non?
Le master se fait en 2 ans, mais il y a une licence qui se fait en 3 ans.
Une licence en 3 ans plus...
En fait, le système, donc LMD, qui est quand même un système universel, hein, bon...
Il y en a des pour, il y en a des contre. Il y en a qui disent qu'il faut peut-être réfléchir autre chose.
Non. Je pense pas qu'il faille quand même dénigrer un système comme ça. Parce que c'est quand même un système qui est appliqué à travers le monde. Bon, et c'est un système anglo-saxon, en fait. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le LMD, nous avions... Les pays anglo-saxons faisaient le bachelor, master et PhD. Bon. Les pays donc européens qu'on suivait avant avec l'ancien système où on faisait l'ingénierat, puis après le magistère au troisième cycle, et puis le doctorat d'État, etc. Il y a eu un constat. À un moment donné, certains pays ont vu que les pays anglo-saxons prenaient de l'avance au point de vue recherche parce qu'ils formaient de jeunes docteurs qui étaient tout de suite opérationnels. Contrairement dans l'ancien système, pour être docteur d'État et appliquer ses idées, des fois, la personne atteignait 40 ans. Donc, elle commençait à être productrice à 40 ans, productrice de ses idées. Alors que là, un PhD à 27 ans, 28 ans...
Tout de suite, il est directement
lancé. Donc, ils ont revu les systèmes, ils se sont alignés un peu sur ce système. Et il y a eu donc le... Bon, pour les Européens, il y a eu le traité de Bologne.
Il y en a qui reprennent dans le système classique, dans certains pays européens, professeur Akrash.
Non, le système classique, non, pas forcément. Non. Parce que le système classique est toujours resté, classique entre guillemets, dans les grandes écoles. Mmh. Parce que, bon, même ici en Algérie, donc l'ingénierat est toujours resté au niveau des grandes écoles. Mais en fait, l'ingénierat, normalement, quand on dit ingénieur, c'est 5 ans, on est ingénieur. Et on va dans l'industrie. Contrairement à la vision où on est ingénieur, après on pense au doctorat, faire de la recherche, etc. L'ingénieur, c'est l'opérationnel.
Tout de suite.
C'est l'opérationnel. Et dans les grandes écoles ailleurs, dans les pays développé, c'est quelqu'un qui est tout de suite inséré dans les gros groupes d'industrie et qui disons, poursuit sa carrière et il est bien valorisé parce que vous avez un ingénieur, il est opérationnel, il est lancé. Alors, il fait de l'innovation au niveau de son entreprise, etc. Il est ingénieur junior, ensuite senior, etc. Il est bien valorisé. Mm-hmm. Chez nous, nous avions l'ingénieurat avant.
Oui.
Parce que même l'université faisait, jusqu'en 2005, on faisait l'ingénieurat. Il y avait les DES et ensuite donc le magistère et le doctorat. Ensuite, on s'est aligné donc sur le système donc international licence master doctorat. Et depuis 2022, on a relancé l'ingénieurat, mais l'ingénieurat est encore, disons que c'est encore un peu timide, parce que même le nombre de spécialités qui sont offertes, proposées oui. par les filières d'ingénieurat ne sont pas nombreuses.
Mmh. Donc, on pose une question sur la page, professeur Akrèche. Est-ce qu'on peut rappeler quelles sont les filières qu'on propose en tant que recteur donc, de l'université de sciences et technologies de Houali Boumediene, les filières. Donc on sait qu'il y a informatique, on rappelle aux auditeurs, chimie.
Bon,
rappelez-nous les filières les plus importantes.
Les filières, bon, il oui. y a les domaines. Il y a les domaines et les filières.
Est-ce qu'il y a des nouveaux...
Non, c'est-à-dire que c'est-à-dire de nouvelles offres de formation. Bon, il y en a quelques-unes qu'on a ouvertes cette année. Je vous ai parlé tout à l'heure du master intégré de biologie qui est tout à fait nouveau. Nous avons aussi un master en sciences des données qui est intégré aussi, qui a été lancé en mathématiques. Là aussi, bon, il est appelé maths appliquées. Là aussi, le minima est de 14,90. Pour faire des maths. C'est pas évident parce que souvent, beaucoup d'étudiants, ah non, je fais pas maths. Quand il y avait le domaine MI, tout le monde voulait faire informatique et les matheux, c'était ceux qui avaient les plus basses moyennes. Maintenant, il y a donc une demande dans ce sens-là, puisqu'il y a des maths appliquées, on met en œuvre. Bon, nous avons aussi, un master. Alors là, ça rentre dans la coopération. Donc, il faut parler quand même de l'ouverture à l'international de l'université. D'ailleurs, cette année, il y a eu un appel. Donc, il y a une plateforme qui permet maintenant aux étudiants étrangers de venir par leurs propres moyens. Bon, pour l'instant, la plateforme... c'est un début, c'est normal. Bon, mais apparemment, il y a un certain nombre de demandes sur la plateforme. Peut-être qu'il y aura des étudiants qui viendront vers l'USTHB. En dehors de ça, nous avons déjà accueilli cette année à travers les bourses 146 étudiants étrangers pour cette année. Et nous avons mis en place, alors ça c'est dans le cadre de la collaboration avec la Mauritanie. Donc nous avions signé une convention avec l'université de Nouakchott. Et bien sûr, pour rendre, cette convention, pour qu'elle soit, effective. Nous avons donc mis en place un master de double diplomation, c'est-à-dire un master commun entre Nouakchott et l'USTHB, qui est donc c'est l'introduction, l'application de l'intelligence artificielle sur la phéniciculture, c'est-à-dire la science des dates.
D'accord.
Voilà. Alors,
ça, c'est nouveau.
C'est nouveau. Okay. Donc, c'est un master qui va être lancé.
Il commence cette année, 2020.
Cette année, il va.
Ok, 2025.
Donc,
2026.
Là, on a fait pas mal de réunions. Oui. Ça sera un master où il y aura environ une dizaine d'étudiants mauritaniens et une dizaine d'étudiants algériens. D'accord. Qui vont donc suivre. Bon, alors là, il y aura beaucoup d'enseignements donc à distance, il y aura des déplacements, des mobilités. Et à la fin, donc, les 20 étudiants auront un diplôme USTHB et un diplôme Université de Nouakchott. Les deux diplômes. Ça, c'est une première. Donc,
d'accord, c'est pour cette nouvelle année. Voilà. Est-ce que vous voulez faire une petite pause ou on continue, professeur Akrèche ? Il est 10h42. Une petite pause, le temps de... Voilà, allez-y. 10h42, si vous avez envie d'appeler, le 021 48 15 15. N'hésitez pas, il nous reste un petit quart d'heure avec notre invité, le recteur de l'université de Bebzoual, pour parler de cette rentrée. Donc, les étudiants et les étudiantes qui sont dans le train pour aller du côté de Bebzoual. Il y a toujours du monde. Oui, il y a les papas qui accompagnent.
سميني صوبني وزيدينا وبني قولوا لها جاوبني حكاية بينها وبني شوفوا حالي لا فيها بوهالي
من هاي تجاتي كراس إنو الهين تدرهقت وردو بغنك يبانيه اسنك يبانيه أستك من هاي تجاتي كراس إنو الهين تدرهقت وردو بغنك يبانيه اسنك يبانيه
تنهينا
اسكام تال
سمع ضوات
ايه تنهينا
ارهقم
كنساني مشى على طول لعين الناس انا مالي انا وغزالي زينك الدنا يا مرجانا في كنسان
اوترها تزار تغمان جنة الطيني ولين تدغن الدار اوترها تزار تغمان جنة الطيني ولين
تدغن الدار تنهينا
اسكام الدار
شرط شولين اسهلان مشان اجا اولين انت ارهيت
Service public.
Service public.
Service public. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien.
Sur différents sujets du quotidien.
Service public.
C'est tout simplement notre métier.
10h45 minutes service public, c'est parti donc pour 2 millions d'étudiants. Notre invité, le professeur Jamel Din Akrash, recteur de l'Université des sciences et de technologies Houali Boumediene, donc une des plus grandes universités d'Afrique. Hein. Et voilà, il y a aussi des conventions qui se font avec l'Université de Nouakchott. Voilà, on reste, on ne tourne pas le dos à l'Afrique, on travaille ensemble, nos étudiants avec leurs étudiants. C'est important de le faire, professeur Akrash.
Oui, bien sûr. S'ouvrir à l'international. D'ailleurs, en plus bon, donc de Nouakchott, bon, nous avons reçu des propositions dernièrement. Donc la direction de la coopération m'a envoyé deux demandes. Il y a l'Université de Biélorussie qui a demandé à collaborer avec l'USTHB. Okay. Donc il y avait un courrier donc, qui a été envoyé via les AE que j'ai reçu de la part de la direction de la coopération.
Oui.
Bon, bien sûr, moi je donne toujours un avis favorable pour,
bien sûr.
Pour avoir le maximum de liens.
Oui, de liens et d'ouverture vers les autres.
Et puis, il y a aussi l'université de Amman, de Jordanie, qui a aussi demandé à collaborer avec l'USTHB. Mmh. Et toujours en Mauritanie, cette semaine, j'ai reçu un courrier du nouveau recteur, parce qu'il vient d'ouvrir une université à Ouadibou, la deuxième ville donc, de Mauritanie. Mmh. Et il demande, bien sûr, à ce qu'il soit accompagné par notre université. Bon, de toutes les façons, dans la collaboration, on joue les deux rôles. On joue le rôle d'accompagnateur parce qu'il ne faut pas... parce que souvent, des fois, on me dit, oui, bon, il faut toujours chercher la collaboration avec des universités qui sont plus développées.
Plus haut standing, oui.
Mais non, il ne faut pas négliger, l'ouverture, l'échange.
Toute collaboration voilà,
et la bienvenue.
Et la bienvenue, je suis d'accord.
Et puis ça peut créer des synergies intéressantes.
Bien sûr. Dites-moi, monsieur Akrash, professeur, l'encadrement, l'effectif enseignant, est-il suffisant pour cette rentrée à l'université de Bab Zouar? Où est-ce qu'il y a des manques?
Il y a des manques un peu dans des matières où la demande est très forte. C'est les mathématiques et l'informatique. Là, nous sommes vraiment, je dirais, en crise.
En crise.
On est en crise.
Ouais.
Bon, d'ailleurs, on espère...
On a une explication, professeur Akrash?
Bon, il y a une explication, bien sûr. D'abord, d'une part, pour l'informatique, il y a d'abord la forte demande.
Oui.
C'est-à-dire que nous avons une forte demande dans le domaine, donc nous recevons un nombre d'étudiants relativement important. En deuxième point, nous avons actuellement, il y a une concurrence un peu déloyale parce que nos enseignants, beaucoup de nos enseignants sont partis soit vers l'école d'intelligence artificielle, mmh. soit aussi vers des écoles privées actuellement, mmh. qui sont agréées, qui ouvrent, donc qui donnent de meilleurs salaires, etc. Donc il y a une forme
même peut-être
d'hémorragie.
La méthode d'enseignement doit être différente, je dirais.
Non, c'est pas ça, c'est pas ça, mais il y a plus, il y a peut-être intérêt plus. Oui. Et puis c'est des petites écoles, ils sont plus à l'aise, etc. Donc nous avons...
Donc informatique, vous m'avez dit, professeur Akrash.
Informatique. Et puis l'informatique aussi, je vous dirais aussi, l'autre problème, c'est que les docteurs en informatique qui veulent faire de l'enseignement, c'est une matière très rare. Parce que nous ouvrons des postes chaque année. Par exemple, cette année, nous avons ouvert 18 postes en informatique. Mmh. Nous avons eu 19 candidats. Vous voyez, alors que dans d'autres filières, pour 5 postes, nous avons des fois 1000 candidats.
Okay.
En physique ou en chimie ou autre chose. Et les 18... On a classé les 18. Parmi les 18, nous avons pratiquement 6 ou 7 désistements.
Mmh, pour quelle raison ?
Non, c'est la proximité. Parce que c'est des enseignants qui postulent dans plusieurs universités. Après, bien sûr, ils choisissent.
Ils cherchent là où il est, à côté de chez lui, le plus souvent,
voilà,
évidemment.
Donc, y a
vous m'avez dit, il y a deux filières.
Et les informaticiens, ils sont opérationnel comme ingénieur. Donc, en fait, faire le doctorat, aller à l'enseignement, ce n'est pas
quelque chose qui intéresse beaucoup.
Qui attire beaucoup les informaticiens. Et au point de vue encadrement, on le paye.
Donc, vous êtes en sous-effectif, je dirais ?
En informatique, oui. On est en train de chercher des solutions, même avec les masters, etc. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, j'ai reçu Madame la doyenne de la faculté d'informatique m'a envoyé un état des lieux en me disant j'ai un vide là. Donc on va essayer de
combler.
On espère qu'il y aura. Parce que nous avons eu quelques doctorants qui ont soutenu leur thèse récemment. Mmh. Avec le nombre de postes. On va essayer de les garder. D'ailleurs, j'ai demandé à la doyenne de les positionner comme vacataires pour l'instant, en attendant que d'autres postes s'ouvrent. Mmh. Ils seront titularisés.
Donc on va dire pour l'effectif enseignant, il y a quelques manquements qui sont...
Et puis en maths aussi. En maths, les mathématiciens profs de maths, les profs de maths, c'est une denrée rare à travers le monde. Et surtout les maths pures, pour trouver des maths.
Quelle explication avons-nous à ça, professeur
Macron ? Les maths pures,
Quand vous dites les maths pures, c'est quoi ? Ça veut dire
c'est algèbre, de base. Algèbre,
géométrie, analyse.
Ils sont rares parce les maths appliquées, maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont vers... S'ils font des maths, ils vont vers les maths appliquées, mais les mathématiques
pures... Mais les maths pures,
c'est une denrée rare à travers le monde. Hein.
D'accord, ok. Je pensais que ça concernait que l'université.
Quand vous avez un très bon maths pur, il peut trouver sa place n'importe où.
Dans le monde.
Et là, il est pris...
Il y a combien de sortants donc dans l'université de Belzoua ?
Cette année, on a eu pratiquement 10 000 diplômés, plus de 10 000, 10 500 diplômés entre licence et master.
Et vous n'avez pas essayé, professeur Akrash, de garder quelques-uns, ceux qui ont fait maths, par exemple, au niveau de Belzoua ?
Non, les masters, de toute façon, on ne peut pas les employer comme enseignants universitaires, mais on leur offre la possibilité de faire des vacations. Donc heureusement, pour les travaux pratiques, pour pas mal de tâches pédagogiques, nous avons nos masters qui participent à cette...
Il y a combien à peu près d'enseignants pour l'université de Babzouar, toutes filières confondues, professeur Akrash ?
2300
par rapport à l'équilibre avec les étudiants.
Qui sont à 50 000. Mais on ne peut pas... Pour dire le taux d'encadrement, c'est pas la division directe parce que tout dépend des spécialités, tout dépend. Vous pouvez être dans un master où vous avez un taux d'encadrement à 1 pour 10 avec un nombre d'étudiants réduit, et puis dans les troncs communs, vous avez des fois 1 pour 50. Hein,
alors on a parlé d'encadrement, il reste à peine quelques minutes encore. La recherche à l'université de Belzoua se porte bien ou pas, professeur Akrash?
Disons que...
Il y a combien de labos de recherche chez vous ?
Actuellement, il y a 74 laboratoires de recherche qui sont quand même aussi, point de vue analyse, qui sont soutenus par un plateau technique d'analyse physico-chimique qui est quand même assez bien équipé. donc qui permet donc aux doctorants et aux chercheurs de faire leurs analyses. Et bon, peut-être que pour certains laboratoires, il y a des fois des petits problèmes de financement, parce que vous savez, depuis que le Fonds national de la recherche a disparu, bon, les financements ne sont plus comme avant. Bon, il faut.
Mais on peut rappeler l'importance des labos de recherche pour
mais là, je leur dis, il faut être innovant, il faut être. C'est-à-dire participer à l'effort économique, voir avec les sociaux. Bon, il y a des laboratoires qui, quand même, sont quand même assez.
Avec des publications.
Bon, il y a des publications, bien sûr, et puis peut-être il y a des brevets aussi qui sortent des laboratoires. Il y a des travaux donc, qui ont été brevetés, c'est des travaux de recherche. Il y a aussi les laboratoires qui participent à des prestations avec le secteur socio-économique, donc ça aussi ça fait rentrer de l'argent pour les laboratoires. Et même des fois donc il y a surtout actuellement on encourage, et c'est la politique du ministère de l'enseignement supérieur, à ce que les labos de recherche essaient d'aller à un produit de la recherche qu'ils peuvent industrialiser et commercialiser. Et d'ailleurs, en parlant de commercialisation, nous avons aussi, ça il faut le noter, nous avons une filiale qui a près de 2 ans maintenant d'existence. Une filiale, donc, USTHB Engineering et Expertise, qui commence à voir son chiffre d'affaires grandir, qui commence à se faire connaître.
Ça, c'est bien. Donc, pour récapituler, il y a 11 brevets d'invention obtenus par les étudiants et les enseignants au niveau de l'université. Vous avez parlé de 30 labels et de 15 start-up. Alors, quelle vision, rapidement vous avez peut-être écho d'autres brevets pour cette année?
Oui, d'abord on espère qu'il y ait d'autres brevets. Et aussi, moi, j'espère aussi attirer certaines grosses entreprises. Je suis en train
de
piocher. Enfin, j'ai une petite stratégie. Bon, je ne donnerai pas le nom des entreprises que je veux cibler. Oui. Parce que, moi, j'aimerais bien, dans cet esprit d'entrepreneuriat et d'aide à l'entrepreneuriat, attirer le secteur économique, je leur offre un espace pour créer un incubateur commun. Ensuite, on fera l'appel à idées, c'est ce secteur qui fera l'appel à idées à nos étudiants. Les idées, les bonnes idées, ensuite, pour les étudiants qui auront de bonnes idées, moi, ce que je souhaite, c'est qu'elles soient donc accompagnées par ce secteur socio-économique. Et bien sûr, à la fin, quand il y a une start-up, cette start-up comme client principal, c'est le secteur socio-économique qui l'aura accompagné. Parce que dans l'incubation, la principale difficulté que nous rencontrons, c'est comment payer les coachs. Parce que dans l'incubation, vous avez le coaching, vous avez donc un coaching dans différents domaines, les finances, le droit, etc.,
pour maturer le projet. Voilà, le projet.
Et là, c'est surtout les coachs qu'il est difficile de trouver.
Donc, conseil pour les étudiants, pour plus de 2 millions qui ont pris les bancs de l'école hier de l'université, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, professeur Akrash, recteur de l'université de Bab-Zouar?
Bon, d'abord, premier point, il faut qu'ils aient confiance en eux-mêmes.
Oui.
Parce que, il y a beaucoup d'étudiants, ils se disent, je vais faire ces études. D'abord, on m'a envoyé dans telle filière, elle ne me plaît pas, etc. Non, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas être défaitiste, au contraire. Bien au contraire, il faut avoir l'esprit conquérant.
Oui.
Avoir et puis aussi, penser à cet esprit d'entrepreneuriat. À dire, je vais créer de la richesse, je vais créer des emplois, c'est moi qui vais créer mon emploi. C'est pas, il faut enlever cette idée de, je suis cette filière, donc je serai recruté par une entreprise
ou une multinationale ou quelque chose.
Et si j'ai pas ce poste, ça veut dire que je suis au chômage et il n'y a pas de travail dans notre pays. Pas du tout. Bien au contraire, le pays compte sur cette force vive pour dynamiser donc l'économie. Et d'ailleurs, quand on parle de micro-entreprise, d'ailleurs là, le processus est quand même bien enclenché. Nous avons donc le Centre de développement d'entrepreneuriat qui propose donc des formations gratuites, 3 semaines pour une personne qui veut lancer sa micro-entreprise. Si le nombre de micro-entreprises augmente, le tissu économique algérien va bien se développer.
En tout cas, on leur souhaite une bonne année universitaire. À vous aussi, professeur et recteur. Hein. C'est quand même une grande université à gérer. Je vous souhaite beaucoup de courage. Merci d'avoir été avec nous de 10h à 11h en direct dans l'émission Service public. 10h58, merci à Hakim Ben Moussa, à la réalisation. Merci à la console technique, notre cher technicien. Et puis Shiraz, qui était au streaming vidéo. Et Najma, qui était à la régie. Badia Ahdad, vous salue et je vous dis que le rendez-vous est prévu pour dimanche pour un autre sujet de service public. Merci Sharif Din. Au revoir. We'll be right back.